France Info.
Vous réveillez avec nous, il est 6h. Et à la une de ce dimanche 18 janvier, 20 blessés, dont un grave dans l'effondrement du plancher d'un appartement. Ça s'est passé cette nuit dans le 11e arrondissement de Paris. Explication à suivre. Des droits de douane en hausse dans 15 jours pour les pays opposés à l'acquisition du Groenland par les États-Unis. Donald Trump brandit sa menace favorite pour s'emparer de ce territoire autonome danois. Les Iraniens vivant en France, inquiets pour leur famille, ils manifestaient hier dans plusieurs villes, dont Paris. Et plus de 30 cm de neige dans le massif vosgien. Les skieurs sont ravi, vous l'entendrez en fin de journal. Un blessé grave et 19 blessés légers dans l'effondrement d'un appartement cette nuit à Paris, dans le 11e arrondissement. D'après les premiers éléments, Sandrine Etto à Andegue, ça s'est passé lors d'un événement festif rue Amelot.
Une cinquantaine de personnes étaient réunies lors d'une soirée dans un appartement du 5e étage quand le plancher au moins du salon s'est effondré sur l'étage du dessous selon les pompiers de Paris. Ils ont été appelés un peu après minuit et environ 125 d'entre eux ont été déployés ainsi qu'une quarantaine de véhicules et plusieurs échelles aériennes pour procéder aux évacuations. Une mobilisation importante mais classique selon les pompiers et qui se sont concentrés sur la recherche de victimes. Le bilan, un blessé grave évacué vers l'hôpital le plus proche, 19 blessés légers pris en charge dans un premier temps dans un poste médical avancé sur place. Selon les premières constatations, l'effondrement est structurel et n'est pas lié à une fuite de gaz. Il n'y a pas eu d'incendie ni d'explosion. Un effondrement de plancher, c'est assez rare, ont précisé les pompiers de Paris, qui réalisent chaque année 475 000 interventions.
Sandrine Etoua, Andegue, Paris, où un rassemblement est organisé cet après-midi en hommage à El Hassen Diarra, cet homme de 35 ans, mort dans la nuit de mercredi à jeudi lors de sa garde à vue au commissariat du 20e arrondissement, interpellé juste en bas du foyer où il résidait. Et deux versions, Margot Steve, s'opposent sur les causes de son décès.
Oui, il y a d'abord la version de la police. Mercredi soir, un équipage surprend El Hassen Diarra en train de rouler un joint de cannabis. Le jeune homme se rebelle et entraîne deux agents au sol. L'un des fonctionnaires fait usage de son taser au niveau de la cheville du jeune homme. Il est amené ensuite au commissariat où il fait un malaise cardiaque, une version confirmée par le parquet de Paris. Mais pour l'avocat de la famille du défunt, c'est à cause de violences policières que le jeune homme est mort. La preuve, dit-il, une vidéo relayée par un élu insoumis. On y voit un individu plaqué au sol recevoir deux violents coups de poing par un policier. L'avocat évoque aussi une flaque de sang sur les lieux de l'interpellation. Pour l'instant, l'enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, ne s'intéresse qu'aux circonstances du décès. L'avocat souhaite désormais qu'un juge d'instruction soit saisi, cette fois pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
Margot Steve, service police-justice de France Info. Le Parti socialiste promet de ne pas censurer le gouvernement si les dernières mesures annoncées par le Premier ministre ne sont pas financées sur le dos des Français, a dit hier soir Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui demande à ce que les grandes entreprises mettent la main à la poche. Sébastien Lecornu est à la recherche d'un compromis pour faire adopter le budget de l'État sans vote. Donald Trump brandit à nouveau le spectre d'une guerre commerciale avec l'Union européenne, cette fois pour mettre la main sur le Groenland, un enjeu majeur pour la sécurité nationale, ne cesse de répéter le président américain. Il veut imposer, à partir du 1er février, une surtaxe de 10% à 8 pays européens, dont la France, et jusqu'à ce que les États-Unis puissent acheter le territoire autonome danois. Gwendal Lavina.
Visiblement frustré par la solidarité européenne face à la menace d'une annexion du Groenland par la force, Donald Trump sort à nouveau son arme favorite. Dans un long message sur Truth Social, le président américain s'en prend au Danemark et à 7 autres pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dès le 1er février, leurs droits de douane augmenteront de 10% et la surtaxe atteindra même 25% à compter du 1er juin. Cette mesure, prévient Donald Trump, restera en place jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland aux États-Unis. Face à la Chine et à la Russie, le président estime qu'une annexion du territoire autonome danois est nécessaire, quand bien même ses habitants et le Danemark s'y opposent fermement. Donald Trump porte aussi un nouveau coup à l'OTAN en affirmant que le déploiement de soldats des pays de l'Alliance sur place est un jeu très dangereux et représente un risque inacceptable.
Gwendal Lavina, des manifestations de soutien hier au peuple iranien dans plusieurs villes de France. Les Iraniens vivant en France s'inquiètent face à la répression du régime sur les manifestations de contestation. Répression qui a fait plusieurs milliers de morts dans le pays selon des ONG. À Paris, hier, 3000 personnes étaient rassemblées selon la police. Valentin Dunat, vous y avez rencontré deux femmes.
L'une a 60 ans, elle a quitté l'Iran à l'âge de 20 ans, l'autre a 30 ans, ses parents sont iraniens. La première, Foulour, a donc passé 20 ans de sa vie dans le nord de l'Iran.
Rasht, c'est une ville où il y a eu beaucoup de morts. J'ai perdu quelqu'un, c'est le mari de ma cousine qui est décédée dans la manifestation, et ma cousine qui a été blessée. Les récits qu'on entend, c'est horrible. Et le monde en train de regarder les Iraniens mourir sans rien faire. L'Europe surtout.
Foulour, et elle est loin d'être la seule, dénonce l'inaction de l'Europe et de la France. La diaspora iranienne présente ici dans les rues de Paris estime que les Iraniens sont totalement abandonnés.
Ah oui, ils sont abandonnés. Moi, sincèrement, ils sont abandonnés.
Sarah, qui est donc née en France, s'est donnée pour mission de...
porter leur voix. Vraiment, on est leur voix. Ce serait horrible de laisser 92 millions de personnes en Iran, comme ça, isolées, coupées du monde et en huis clos se faire assassiner. Voilà.
À vrai dire, vu de Paris, il ne reste que l'espoir pour cette diaspora qui craint désormais qu'avec la très forte répression du régime, le mouvement ne s'éteigne.
Reportage à Paris de Valentin Dunat. Selon les autorités iraniennes, le calme est revenu dans le pays. Les écoles de Téhéran et d'autres villes peuvent rouvrir aujourd'hui. La coupure d'Internet, elle, est toujours en cours. L'offensive des autorités syriennes doit cesser immédiatement, affirme Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le président français réagit aux opérations de l'armée syrienne dans le nord du pays face aux forces kurdes. La France et l'Europe ne pourront pas soutenir la poursuite d'une telle approche, prévient Emmanuel Macron. Cette nuit, l'armée syrienne a annoncé avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire de Takba, ville clé de la province de Raqqa, tenue par les forces kurdes. Il est 6h06 sur France Info. La météo de ces derniers jours fait le bonheur des skieurs dans l'est de la France au ballon d'Alsace. Les 9 pistes sont ouvertes. Douceur, soleil et ciel bleu au sommet avec au moins 35 cm de neige. Des conditions idéales pour dévaler les pentes du massif vosgien qui fait le plein depuis hier. Hervé Blanchard, vous avez chaussez vos plus beaux skis pour un reportage tout chousse à la Gentiane.
Au pied des pistes de la Gentiane, Vincent est au départ des téléskis de la Bruyère et ça défile.
On mesure la distance de la queue. Là, pour l'instant, il y a du monde, mais ça, c'est fluide, ça va bien sur les pistes. Quasiment tout le domaine est ouvert, ouais. C'est un peu de la neige de printemps, il fait très doux, mais elle est molle. C'est de la bonne neige à skier.
Effectivement, c'est parfait pour Daniel, un retraité vosgien.
C'est génial. En plus, c'est sympa, il n'y a pas trop de monde, on ne fait pas trop la queue, juste le temps de se reposer un peu les jambes, et c'est reparti. C'est du bonheur de skier comme ça.
Pour les gens du coin, skier au ballon, c'est aussi une sortie de dernière minute pour Gaëtan, venu d'Alsace.
C'est l'avantage d'habiter à côté, on peut juste venir 2-3 heures, et quand on a envie, quand on a le temps.
On se retrouve aussi en famille pour les premiers cours de ski, comme pour Geoffrey et ses 3 enfants.
C'est la sortie en famille, c'est la sortie du samedi. On essaie de les faire progresser au ballon d'Alsace pour plus tard les emmener dans les Alpes quand ils auront un bon niveau.
Sans oublier de profiter du paysage, comme Émilie et sa petite famille venue du nord de la France.
Avec le ski, en haut, il y a un petit endroit sympa avec la vue sur les Alpes, des tables de pique-nique, un petit chalet. Et c'est là où on va pique-niquer. On va passer un bon moment en famille, on va se régaler.
Et aujourd'hui encore, ils seront nombreux, plus encore qu'hier, à skier au ballon d'Alsace. Preuve que la saison est bel et bien lancée, suffisamment a priori pour tenir jusqu'aux vacances de février.
Reportage d'Hervé Blanchard, ici Belfort-Montbéliard. Le football, Lens a repris la tête du classement de Ligue 1 en battant Auxerre hier soir 1-0. C'est même la 8e victoire d'affilée des 100 et or en championnat. Et l'Olympique de Marseille s'est largement imposé à Angers, 5-2, suite de la 18e journée aujourd'hui avec en clôture Lyon-Brest. C'est à 20h45. Toujours en football, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, c'est ce soir. Le Maroc reçoit le Sénégal, le choc entre deux favoris de la compétition. Coup d'envoi à 20h à Rabat et ce sera à suivre sur France Info. Et puis la France est championne d'Europe de patinage artistique. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry ont remporté hier et pour la première fois ensemble la médaille d'or à Sheffield en Angleterre. De bon augure à 3 semaines des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour Mathilde.
On fait un tour sur le ciel avec vous. Beaucoup de pluie aujourd'hui dans le sud.
C'est toujours cet épisode méditerranéen qui se poursuit avec de fortes pluies aujourd'hui. Alors surtout sur la Corse et sur le Languedoc-Roussillon, et puis s'accompagne de bonnes rafales de vent. On a encore de la neige sur le massif central, les Pyrénées et le long de la frontière italienne à partir de 1400 mètres. C'est plus calme mais ça reste gris et humide le long de la façade atlantique, sur le massif central et le sud-ouest. Et on a une amélioration qui se dessine par le nord et le nord-est du pays avec le retour d'un temps plus lumineux après dissipation quand même de quelques plaques de grisailles, des brouillards et des nuages bas et les températures contrastées. Un petit peu fraîches dans le nord et le nord-est, 3 degrés à Strasbourg, 5 à Mulhouse, mais toujours de la douceur sous la pluie près de la Méditerranée, jusqu'à 14 à Perpignan et 17 à Ajaccio.
Merci Patricia Charbonnier.
France Info le week-end.
Le billet science.
Bonjour, c'est Bill François. Je vous retrouve tous les week-ends pour vous partager une nouvelle découverte sur le monde, vous raconter une merveille de la nature ou une avancée décisive de la science.
Tous les week-ends, retrouvez le billet science, les découvertes de Bill François, à 8h25 et 10h50 sur France Info.
Une surtaxe des droits de douane à partir du 1er février pour les pays européens opposés à l'acquisition du Groenland par les États-Unis. C'est ce que compte faire Donald Trump et la France est concernée une attitude inquiétante de la part du président américain, selon un spécialiste, vous l'entendrez. Mais d'abord, et si l'affaire des viols de Mazan avait pu être empêchée? Selon un rapport de l'inspection générale de la justice, Dominique Pellicot a été interpellé en 2010, son ADN transmis à la justice, mais jamais versé au dossier. On vous explique tout.
France Info, 6h-7h, Mathilde Romagnan.
Le calvaire de Gisèle Pellicot aurait pu être évité, c'est ce que montre un rapport de l'inspection générale de la justice que France Info a consulté. Cette femme a été violée par des dizaines d'inconnus après avoir été droguée par son mari Dominique Pellicot, condamné l'an dernier. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Yannick, ce rapport doit être rendu public aujourd'hui, mais vous le révélez le contenu et il est édifiant.
Oui, car il confirme que si une empreinte ADN avait été prise en compte, l'ancien mari et tortionnaire de Gisèle Pellicot aurait pu être confondu 14 ans avant le procès. Nous sommes le 30 juillet 2010, dans un supermarché de Seine-et-Marne en région parisienne. Dominique Pellicot est surpris en train de filmer sous les jupes de clientes avec une caméra stylo, comme il l'a fait 10 ans plus tard dans le Vaucluse. Il est placé en garde à vue et s'en tire avec le paiement d'une amende de 100 euros.
Mais les policiers prennent son ADN.
ADN enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques et qui match avec une empreinte relevée en 1999 dans le cadre d'une enquête pour tentative de viol dans le même département. La police scientifique transmet alors l'information à la justice, mais rien ne se passe. Les premiers viols de Gisèle Pellicot débuteront l'année suivante, en juillet 2011, un an tout juste après l'arrestation de son mari.
Alors Yannick, pourquoi la justice n'a pas pris en compte cet ADN ?
Eh bien, tout s'est joué en une lettre, un simple courrier envoyé par la police scientifique au parquet de Meaux qui pilotait l'enquête sur la tentative de viol. Pas de courrier recommandé, pas de transmission numérique, aucun accusé de réception, aucune trace informatique. On ne sait même pas si le courrier est bien arrivé. Ce qui est sûr, c'est que la justice n'a pas versé au dossier l'ADN de Dominique Pellicot. Mais l'inspection générale dit ne pas pouvoir conclure avec certitude à un dysfonctionnement. Les dysfonctionnements pourtant ne manquent pas. Un magistrat en poste à l'époque explique que le parquet de Meaux était alors en pleine réorganisation avec des services surchargés, des pièces qui disparaissaient régulièrement. Quant à la gestion du courrier, quand des magistrats quittaient la juridiction, les lettres étaient parfois renvoyées à l'expéditeur, voire détruites sans être ouvertes.
Et l'inspection de la justice pointe un dysfonctionnement plus général dans le traitement judiciaire de ces empreintes génétiques.
Oui, en langage administratif, on appelle ça un impensé organisationnel. Ce problème de transmission des informations du fichier des empreintes génétiques, problème identifié dès 2010 jusqu'à la création d'un groupe de travail 14 ans plus tard, en 2024. Mais aujourd'hui, des éléments aussi sensibles que des profils ADN sont encore parfois envoyés par simple courrier avec le risque de disparaître dans la nature. Alors que le fichier des empreintes génétiques joue un rôle de plus en plus crucial dans les enquêtes, avec plus de 7 millions de profils enregistrés.
Merci. C'est Yannick Falt, service police-justice de France Info. Et ce rapport, vous nous le dévoilez alors qu'on a appris vendredi dernier que le pôle Cold Case de Nanterre tentait d'identifier d'autres victimes potentielles de Dominique Pellicot. Face aux pays européens qui s'opposent à son acquisition du Groenland, Donald Trump brandit les droits de douane. Le président américain menace d'imposer dès le 1er février une surtaxe de 10% aux 8 pays européens qui ont envoyé des renforts militaires dans ce territoire autonome danois, dont la France. Une situation inquiétante selon Patrick Martin-Génier, spécialiste de l'Europe et professeur à Sciences Po et à l'INALCO.
Lorsqu'il y a eu cette guerre sur les tarifs douaniers cet été avec la présidente de la Commission, c'était dans un jeu de relations commerciales avec des pressions effectivement pour augmenter les exportations américaines en Europe. Mais là, il s'agit de tout à fait autre chose. Il veut déclencher une guerre des tarifs, une guerre commerciale à d'autres fins que des fins purement commerciales, car cette nouvelle menace de Donald Trump, eh bien, il s'agit bien de menaces de droits de douane à des fins purement punitive, c'est-à-dire punir les États européens qui ne sont pas d'accord avec lui sur sa volonté d'annexer le Groenland. Et en cela, non seulement c'est parfaitement illégal, mais c'est absolument inacceptable. Et par conséquent, oui, si l'Europe ne réagit pas de façon cohérente et de façon unie, c'est aussi l'enjeu de la crédibilité de l'Europe qui est en cause.
On le rappelle, hein, inacceptable, c'est le mot employé par Emmanuel Macron lorsqu'il a pris connaissance de ces menaces. Il a même dit que la réponse des Européens serait une réponse unie. On a 8 pays qui sont concernés. Mmh. Ça signifie qu'il peut y avoir des fissures en Europe, notamment avec les autres États, si je puis dire, de l'Europe.
Oui, très clairement. Mais d'abord, l'aspect positif, c'est qu'il y a 8 pays qui veulent envoyer des troupes, notamment l'Allemagne, la France. Et hors de l'Union européenne, il y a quand même le Premier ministre Keir Starmer du Royaume-Uni, qui lui-même n'est pas dans l'Union européenne, qui est très très proche et qui se vante d'une relation privilégiée avec les États-Unis, qui lui-même a pris position très fermement contre cette volonté d'annexion. 8 pays, c'est déjà beaucoup, c'est important, mais à chaque fois qu'il s'agira d'envoyer des troupes quelque part, de toute façon, il y aura toujours des fissures. On a bien vu, par exemple, que l'Italie, Madame Meloni, a dit que ses troupes n'avaient rien à faire au Groenland. Donc, on voit bien ici que certains chefs d'État et de gouvernement, qui sont très proches, d'ailleurs, de Donald Trump, n'ont pas envie du tout d'envoyer des troupes au Groenland. Oui, il y aura toujours des pays qui seront frileux, des pays qui vont se désolidariser des décisions prises par des grands pays. Ce qui me semble important, c'est que des grands pays tels que la France, l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, décident d'agir de concert pour contrer cette volonté d'annexion de Donald Trump.
Et il sera important que Londres et Berlin tiennent le même discours que Paris ?
Ah oui, absolument, c'est absolument essentiel parce que vous savez que le Royaume-Uni se vante d'être le meilleur partenaire et d'avoir des relations extrêmement privilégiées avec les États-Unis. On voit un Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui avait négocié un accord tarifaire qui lui semblait tout à fait avantageux.
Il parle de menaces. Pardonnez-moi, il parle de menaces erronées d'ailleurs concernant ces.
Oui, absolument. Oui. Mais je veux dire, c'est complètement. On voit que Donald Trump lui-même dit que le fait d'envoyer quelques troupes, quelques soldats d'ailleurs, c'est tout à fait. Ça met en cause la sécurité nationale. Et le Premier ministre britannique a tout à fait raison de dire que c'est parfaitement erroné, c'est inacceptable. On voit bien que Donald Trump est hors de contrôle aujourd'hui, et c'est ça qui est grave.
Comment vous comprenez cette phrase de Donald Trump, Patrick Martin-Jeunier, quand il déclare « la paix mondiale est en danger », c'est du Trump ou il faut le prendre quand même au sérieux ?
Vous savez, avec Donald Trump, on ne sait jamais ce qu'il dit. Est-ce que c'est sérieux ? Par exemple, il avait envisagé de partir en Iran, de bombarder l'Iran et de renverser le régime des Mollahs. Et au final, il est en train de nous dire qu'il va négocier avec eux et qu'il a évité 800 exécutions. Il a dit qu'il voulait renverser le régime au Venezuela. Au final, il négocie avec la présidente par intérim, il maintient le régime. Donc au final, il n'est pas très crédible, mais il faut quand même le prendre au sérieux parce que vous savez qu'il a concentré les pouvoirs à la Maison-Blanche, les contre-pouvoirs aux États-Unis n'existe plus pour l'instant. Il a refusé de dire si oui ou non il interviendrait militairement au Groenland. Donc il n'exclut pas cette hypothèse. Donc je crois qu'il faut le prendre au sérieux, même si effectivement, comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN, le Groenland était devenu une arme de distraction massive, non pas de destruction, mais de distraction massive, à savoir on détourne l'attention de l'Ukraine. L'Ukraine étant effectivement agressée et un autre danger plus important pour la paix mondiale que le Groenland.
Justement, cette question des Européens, ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on avait déjà cela avec la coalition des volontaires, c'est-à-dire qu'on a des pays de l'Union européenne et des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, et là c'est un petit peu la même chose.
Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que on voit qu'il y a certains pays qui veulent résister parce que il s'agit bien là d'une résistance face à une potentielle agression des États-Unis, mais quel que soit, nous sommes 27, vous savez, et donc dans 27 pays, jamais il n'y aura de décision unanime en tant que telle de l'Union européenne, ce sont donc des États, des coalitions de volontaires pour l'Ukraine, et là on pourrait reconstituer une sorte de coalition des volontaires pour la défense du Groenland, nécessairement à 27 ou plus, vous ne pouvez pas être d'accord, il y a toujours certains pays qui ne seront pas solidaires des décisions prises. Et ce qui me semble important, c'est qu'il y ait au moins une dizaine de pays parmi eux les plus importants qui représentent et qui défendent cette Europe qui doit effectivement montrer sa crédibilité. Parce que si l'Europe ne réagit pas, c'en est fini. Il n'y aura plus de politique étrangère de l'Union européenne, il n'y aura plus de volonté politique et donc nous serons complètement décrédibilisés. Et à terme, bien évidemment, c'est l'existence même de l'Union européenne qui est en cause.
Patrick Martin-Jeunier, est-ce qu'on a les moyens de répliquer ?
Non, clairement non. On peut toujours bavarder, on peut toujours émettre des protestations solennelles. C'est très bien. Lorsqu'il dit qu'on va défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, bon, pour l'instant, l'Europe a été exclue des négociations. Et bien évidemment que je ne vois pas, si les États-Unis décidaient d'un coup de force au Groenland, de quelle façon l'Europe pourrait-elle répliquer. Vous savez, ce qui m'a choqué cette semaine, c'est de voir cette ministre des Affaires étrangères du Groenland aller là-bas, sortir en pleurs du bureau du secrétaire d'État Marco Rubio, parce qu'ils ont été d'une violence très extrême. Et aujourd'hui, on parle véritablement d'un nouveau harcèlement international sur les États européens, et ça, c'est très grave. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour l'instant, rien. Et si on doit porter cette affaire devant les Nations Unies, on sait très bien que le Conseil de sécurité lui-même est complètement paralysé à cause de la présence des grandes puissances.
Patrick Martin-Genier, spécialiste de l'Europe, professeur à Sciences Po et à l'INALCO. Il était au micro France Info de Renaud Blanc. Restez avec nous à suivre la campagne pour les élections municipales à Lyon. Le premier meeting du maire écologiste sortant, Grégory Doucet. Ce sera après l'essentiel de l'actualité.
France Info, 6h-7h.
Et à 6h21, l'info en une minute, c'est avec vous, Philippine Thibaudot, bonjour.
Bonjour.
À la une ce dimanche matin, un accord commercial historique.
Ouais, selon les signataires hier de l'accord entre l'Europe et le Mercosur, il prévoit une baisse des droits de douane et un renforcement des échanges commerciaux entre les deux blocs. Autour maintenant du Parlement européen de le voter pour le finaliser. Des drapeaux iraniens brandis dans les rues de Paris, 3000 personnes ont manifesté hier en soutien au peuple iranien qui subit durement la répression du pouvoir. Ailleurs aussi, manifestation à Tours, à Dijon, ou encore Lille et Strasbourg. Le sol d'un appartement qui s'effondre, c'est ce qu'il s'est passé hier au cinquième étage d'un immeuble parisien. 50 personnes réunies pour une soirée, au moins une personne gravement blessée, 19 plus légèrement. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'effondrement est structurel et n'est pas lié à une fuite de gaz, selon les pompiers. Et puis, 5 départements en vigilance orange, soit pluie et inondation, soit crue, soit les deux. Ça va de l'Aveyron à l'Hérault, en passant par la Corse du Sud. Les autorités appellent à la prudence.
France Info, municipale 2026.
Il est distancé dans tous les sondages par l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Mais le maire écologiste sortant de Lyon, Grégory Doucet, a tenu hier soir son premier meeting de campagne. Et il a reçu le soutien du militant anti-drogue marseillais Amine Kessassi. Un soutien de poids, Christophe Vincent.
Nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir Amine Kessassi.
Par mesure de sécurité, sa venue n'avait pas été annoncée, mais la salle a réservé un bel accueil à l'un des symboles de la lutte contre le narcotrafic.
Grégory, je sais que lorsqu'en mars prochain tu seras réélu maire de Lyon, l'équipe que tu conduis s'engagera dans l'accompagnement des familles de victimes. De ces mamans qui ont arrêté de vivre lorsqu'elles ont perdu un enfant. De ces mamans qui vivent encore au même endroit. Il faut qu'on accompagne les familles de victimes, tu le sais.
Le public approuve la démarche courageuse du militant écologiste.
Amine, il est tout à fait à sa place sur ce qu'il défend.
On a aussi les mêmes problèmes qu'à Marseille. C'était très fort.
On a des gamins qu'on perd. Quel avenir on donne à nos gamins? Il y a des gens qui les attendent et c'est des gens mal intentionnés.
Longtemps jugé laxiste, Grégory Doucet fait de la sécurité l'une de ses priorités.
Notre plus grande force, ce sont nos policiers municipaux. Nous allons les renforcer par la création d'une brigade anti-incivilité. Et nous continuerons de recruter des policiers municipaux.
À 2 mois du scrutin, le maire sortant se jette dans la bataille pour tenter de faire mentir les sondages.
Reportage à Lyon de Christophe Vincent. À 6h23 sur France Info, l'œil de Julie, l'actualité sur les réseaux sociaux avec Julie Vialon. Elle est en compagnie de Benjamin Fontaine.
Elle ne rate rien de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des nouvelles tendances. Bonjour Julie Vialon.
Bonjour.
Il y a une tendance qui agace en ce moment, c'est le vague posting en bon français. Qu'est-ce que c'est?
Imaginez, je poste sur X, vous ne devinerez jamais la dinguerie qu'a lâché France Info. Bon, vous avez envie de savoir, bah quelle dinguerie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors vous postez un commentaire, vous posez des questions et je n'y réponds jamais. C'est ça le vague posting, un poste donc vague, un peu mystérieux, parfois sans aucun contexte et surtout frustrant parce qu'il éveille notre curiosité sans jamais répondre à nos questions. Et il n'est pas réservé aux médias ou aux débats politiques, hein. Ça peut aussi être beaucoup plus personnel. Par exemple, je pourrais poster « Parfois, les gens te déçoivent vraiment » ou encore « Je pensais connaître certaines personnes ». On comprend tous qu'il s'est passé quelque chose, on veut savoir mais quoi, oui. Avec qui, pourquoi, mais il n'y a jamais de suite.
Quel est l'intérêt de faire ça ?
Excellente question, mais la réponse vous choquerait beaucoup trop. C'est frustrant, hein ?
C'est très frustrant.
Ouais, c'était pour vérifier si vous me suiviez. L'intérêt, donc, parce que je vais quand même répondre, c'est que ce type de poste crée de l'engagement. Il attire les clics et les réactions et les commentaires simplement parce que personne ne comprend vraiment le message et certains internautes n'en peuvent plus, comme Jacob Rickman, auteur et créateur de contenu sur TikTok.
Les gars, arrêtez le vague posting, on n'est plus au lycée. Hier, un auteur a posté pour dire qu'un livre récemment publié avait été écrit en partie grâce à l'IA, donc tout le monde lui a demandé « Pourquoi tu ne nous dis pas de quel livre tu parles ? Qui est l'auteur ?» Et il a répondu que c'était pour des raisons légales. Bah, j'ai envie de lui dire « Alors n'en parle pas du tout !»
Certains internautes voient le vague posting comme un signe de détérioration de la qualité des échanges en ligne et surtout de l'omniprésence des algorithmes qui favorisent le contenu sensationnel ou ambigu. D'ailleurs, selon le magazine Rolling Stone, le phénomène est devenu très discuté à cause justement des nouvelles politiques de monétisation sur X qui encouragent les contenus accrocheurs mais souvent peu clairs. Dans leur article, Zari Taylor, une chercheuse en culture numérique à l'université de New York, explique que l'augmentation de ces publications vague coïncide avec un mécontentement général face à l'emprise des réseaux sociaux. Notre façon de publier et d'interagir avec le contenu s'est infiltrée dans notre quotidien, dans notre langage, nos actions. Les internautes voient les manipulations, ils voient leurs applications se dégrader et ils en ont assez.
Helmut Fritz sur France m'énerve. Info, ça va m'énerver. Ça date un petit peu, mais c'est toujours un petit plaisir de le réécouter.
C'est d'actualité.
L'œil de Julie, Julie Vialon avec Benjamin Fontaine. La playlist de France Info à 6h26, chaque dimanche, les coups de cœur du service culture. Anne Chépeau, aujourd'hui, vous avez choisi le nouvel album de la mezzo-soprano Marina Viotti.
Vous vous souvenez sans doute de Marina Viotti chantant Asaira aux côtés du groupe de métal Gojira devant la conciergerie lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Eh bien, la voici dans un tout autre registre dans son nouvel album Prime Donne. Dans cet album enregistré à la Chapelle Royale du Château de Versailles, avec l'orchestre de l'Opéra Royal dirigé par Andrés Gabetta, Marina Viotti chante des airs sacrés du XVIIIe siècle, écrits pour des voix féminines, une exception à cette époque. Des airs signés Antonio Vivaldi, Giovanni Porta ou Nicola Porpora. Donne le nouvel album de la mezzo-soprano Marina Viotti.
Anne Chépeau pour la playlist de France Info avec le nouvel album de Marina Viotti. À suivre après le journal France Info Sport, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce soir. Le Maroc affronte le Sénégal et puis on suit l'Open d'Australie qui commence aujourd'hui. Mais d'abord, la météo.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur verissure.fr.
Patricia Charbonnier, un temps très agité, pluie et vent en Méditerranée.
Et oui, cet épisode méditerranéen se poursuit jusqu'à demain, voire jusqu'à mardi, avec de fortes pluies aujourd'hui, surtout concentrées sur les deux départements Corse et sur le Languedoc-Roussillon. Des pluies qui peuvent prendre un caractère orageux et qui s'accompagnent d'un vent d'est fort jusqu'à 80 km/h en rafale sur les côtes méditerranéennes. Le temps est gris et humide sur les régions proches de l'Atlantique et sur le Massif central et le Sud-Ouest, mais là, les pluies sont plus faibles. On attend encore de la neige sur les massifs à partir de 1400 mètres. Et puis le temps s'améliore quand même par le nord et le nord-est du pays. On a une poussée anticyclonique, donc c'est un temps sec avec un ciel lumineux cet après-midi et des températures comprises entre 3 et 17 degrés. 17 degrés, ce sera pour Ajaccio, 11 à Toulouse, 10 à Paris et 5 à Mulhouse.
Merci Patricia Charbonnier et merci à vous d'écouter France Info. Bon réveil, il est 6h30.
France Info. Mathilde Romagnan.
Dominique Pellicot aurait pu être arrêté plus tôt, selon un rapport de l'inspection générale de la justice que France Info a pu consulter et qu'on vous révèle ce matin. Yannick Falt, ce rapport montre que le calvaire de Gisèle Pellicot aurait pu être évité.
Si une empreinte ADN avait été prise en compte par la justice, l'ancien mari et tortionnaire de Gisèle Pellicot aurait pu être confondu 14 ans avant le procès. 30 juillet 2010, Dominique Pellicot est surpris en train de filmer sous les jupes de clientes dans un supermarché de Seine-et-Marne en région parisienne. Il est placé en garde à vue, sans tir avec le paiement d'une amende de 100 euros. Mais les policiers prennent son ADN qui matche avec une empreinte relevée en 1999 dans le cadre d'une enquête pour tentative de viol dans le même département. La police scientifique transmet alors l'information à la justice, mais rien ne se passe. La faute à un courrier, une simple lettre sans accusé de réception, jamais arrivée ou jamais traitée par le parquet de Meaux, croulant sous les dossiers et où des pièces disparaissaient régulièrement. Les premiers viols de Gisèle Pellicot débuteront l'année suivante, en juillet 2011, un an tout juste après l'arrestation de son mari dans cette première affaire.
Yannick Falt, service police-justice de France Info et l'inspection générale de la justice dit ne pas pouvoir conclure avec certitude un dysfonctionnement, ne sachant pas si le courrier a bel et bien été reçu. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Union européenne est prévue dans la journée à Bruxelles, après la menace de Donald Trump d'augmenter les droits de douane pour les 8 pays opposés à son acquisition du Groenland. La France, mais aussi l'Allemagne et le Royaume-Uni sont concernés, pays qui ont envoyé des soldats pour une mission militaire dans ce territoire autonome danois. Une surtaxe de 10% leur sera appliquée à partir du 1er février par le président américain. Un effondrement dans un immeuble à Paris a fait un blessé grave dans le 11e arrondissement de la capitale cette nuit. Le plancher d'un appartement situé au 5e étage s'est affaissé sur le 4e. 19 autres personnes ont été légèrement blessées. Les pompiers de Paris ont été appelés un peu après minuit. Le capitaine Jonathan Negele, officier de communication des pompiers de Paris.
C'est un appartement du 5e étage qui s'effondrait sur le 4e étage. C'est au niveau du plancher, c'est structurel. On n'a pas eu de notion de gaz ni de feu. Donc on a eu un blessé grave qu'on a évacué immédiatement vers l'hôpital le plus proche et actuellement 19 blessés légers qui sont tous pris en charge par les pompiers. Il y a environ 125 pompiers qui ont été déployés et une quarantaine de véhicules. C'est un déploiement tout à fait classique et d'importance pour une situation de ce type parce qu'on s'est concentré sur la recherche de victimes. Un effondrement, c'est pas rien. Lorsqu'on a été appelé, dans cet appartement, il y avait une cinquantaine de personnes. Il y avait une soirée qui était organisée et c'est donc l'appartement où il y avait ce rassemblement qui s'est effondré sur l'appartement du dessous.
C'est assez inédit. Est-ce que ça a pu arriver de votre expérience?
Là, c'est arrivé ce soir. Nous, les pompiers de Paris, on a 475 000 interventions par an. Une intervention comme ça, oui, c'est assez rare.
Le capitaine Jonathan Negele, officier de communication des pompiers de Paris. Le Parti socialiste promet de ne pas censurer le gouvernement si les dernières mesures annoncées par le Premier ministre ne sont pas financées sur le dos des Français. C'est ce qu'a dit hier soir Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Sébastien Lecornu est à la recherche d'un compromis pour faire adopter le budget de l'État sans vote. Le rugby, le Stade toulousain s'est qualifié hier pour les 8e de finale de la Champions Cup en battant les Anglais de Sale 77-7. Même chose pour Castres et Toulon, vainqueurs respectivement au Munster et à Gloucester. Aujourd'hui, victoire impérative pour les Rochelais dans la poule 3. Ils reçoivent les Harlequins de Londres à 16h15. Et puis l'équipe de France de handball est qualifiée pour le tour principal de l'Euro grâce à la victoire de la Norvège contre la République tchèque hier soir. Norvégiens que les Bleus affronteront justement demain pour valider la première place de leur groupe. Tout de suite, France Info Sport.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
Et avec le football, qui du Sénégal ou du Maroc régnera sur le football africain? C'est ce soir que l'on connaîtra le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la finale. Elle est prévue à 20h à Rabat, au Maroc, à suivre bien sûr sur France Info. Finale annoncée entre les deux favoris de la compétition, mais finale particulière entre deux pays frères, Xavier Monferrand.
Devant la gare de Rabatville, Ansou et Issam s'abritent de la pluie et discutent comme de vieux amis. L'un est sénégalais, l'autre marocain. Ils viennent tout juste de se rencontrer, mais la complicité est déjà là, et avec Ansou, sa chambre.
Oh, tu sais, le Maroc et le Sénégal, c'est deux pays frères depuis le roi Hassan II, donc on se sent comme chez nous ici. Mais quand c'est comme ça, c'est nous les invités, ils seront gentils, on va aller prendre la coupe et puis partir faire une grosse photo avec à Dakar. Et si tout se passe bien, et si on est content, on leur renvoie la coupe.
Bon, Issam n'est pas d'accord, mais le Maroc et le Sénégal sont trop proches pour qu'une coupe les sépare. Pour bien des raisons religieuses, mais aussi économiques, sociales et culturelles, supporters les uns des autres, y compris lors de cette compétition. Même cette finale n'y changera rien pour le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui.
On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite, je vivais à Corbeil-Essonne. Mes voisins au quatrième, je vivais au troisième. C'était la famille Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun.
Sauf que le temps d'un match, il n'y a plus d'amis. Le Maroc attend ce sacre depuis 50 ans et les Sénégalais ne sont pas là pour jouer les figurants, reconnaît le défenseur lyonnais Moussa Niakate, quitte à plomber l'ambiance.
Gâcher la fête, j'aime pas trop parce qu'on est dans le respect. C'est vrai, ce sont des pays frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition et il faudrait pas que tout cela se gâche. Mais à la fin, il y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. On est déterminés comme jamais. C'est sûr que la coupe, on veut la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah. Là, c'est le Sénégal qu'elle remportera.
Et si le Maroc pourra compter sur le soutien bruyant de plus de 65 000 supporters, le Sénégal, lui, a l'expérience. C'est sa troisième finale sur les quatre dernières éditions de la CAN.
Xavier Monferrand, c'est avec vous qu'on suivra ce match ce soir à 20h sur France Info. Le tennis et l'Open d'Australie. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
6 Français aujourd'hui sur le premier jour du tournoi. Un qualifié, une éliminée. Et en ce moment, Elsa Jacquemot est sur le terrain, Fabrice.
Et vous tombez très bien, balle de match en faveur d'Elsa Jacquemot, opposée à l'Ukrainienne Marta Kostyuk. Elle est tout simplement 20e joueuse mondiale, alors qu'Elsa Jacquemot, elle, est actuellement 58e mondiale. C'est tout simplement sa première participation. Un set partout entre les deux joueuses. 6 jeux à 5 en faveur d'Elsa Jacquemot dans le troisième et dernier set. Mais à l'instant même, service gagnant de Kostyuk, donc qui efface cette première balle de match. Mais attention, elle est diminuée. Marta Kostyuk, tout simplement parce qu'il y a quelques instants, alors qu'elle servait justement, qu'elle sert toujours d'ailleurs pour égaliser à 6 partout, pour pousser Elsa Jacquemot dans un tie-break, eh bien Marta Kostyuk s'est tordue la cheville gauche. Elle a demandé un temps mort médical, ce qui lui a été accordé évidemment, mais malheureusement pour Kostyuk, elle est donc, je vous le disais, légèrement diminuée. Reste à savoir maintenant si Elsa Jacquemot va en profiter. Elle s'est procuré une première balle de match, donc elle n'a pas pu concrétiser. Donc pour l'instant, un set partout entre les deux joueuses, 6 jeux à 5 pour Jacquemot. C'est Kostyuk qui est au service. Kyrian Jacquet est actuellement lui aussi sur le court. Lui, il est 128e joueur mondial. Il est invité par les organisateurs et il est opposé à un Américain, Emiliano Nava, 88e mondial. Et pour l'instant, 2-7 à 1 en faveur de Nava, l'Américain, et 3 jeux à 2 en faveur de Jacquet dans le quatrième set. Il vient de faire le break, donc il est au service pour confirmer le break et pour mener 4 jeux à 2. Sinon, côté qualification, signalons celle de Corentin Moutet. Il jouera donc le deuxième tour. Le Français s'est qualifié sans problème en dominant le 97e mondial, l'Australien Tristan Scolcate, en 3-7. Corentin Moutet avait réussi l'an passé son meilleur résultat en Australie, hein, en se hissant en 8e de finale. En revanche, chez les dames, c'est fini pour Léolia Jean-Jean, battue en 2-7 par l'ex numéro 3 mondial, la grecque Maria Sakkari, aujourd'hui 52e en 2-7. Donc je vous le disais, 6-4, 6-2 il y a l'instant même. Kostyuk qui vient de remporter sa mise en jeu. 6 jeux par partout entre les deux joueuses qui sont sur le court maintenant depuis 3h17. Le premier set remporté au tie-break par Kostiouk. Jacquemot a remporté le deuxième set au tie-break également. 6 partout, donc troisième tie-break entre les deux joueuses. Et c'est Aïssa Jacquemot qui va servir au début de ce tie-break.
Merci Fabrice Abgral, c'est grâce à vous qu'on suit cet Open d'Australie de tennis sur France Info. Restez avec nous, on revient sur la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur.
France Info, 6h-7h, Mathilde Romagnan.
L'accord avec les pays du Mercosur a été signé hier après-midi au Paraguay après plus de 25 ans de négociations et malgré les oppositions de plusieurs pays dont la France. Le traité crée un marché de plus de 700 millions de consommateurs entre l'Union européenne et le bloc sud-américain. C'est un signal clair en faveur du commerce international dans un contexte de tension, a affirmé le président du Paraguay. Un commerce juste plutôt que des droits de douane, c'est ce qu'a déclaré pour sa part la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen.
Many hands have worked tirelessly. Beaucoup de mains ont travaillé sans relâche. Cet accord a survécu à des changements de gouvernement. Il a survécu aussi à de nombreuses réunions. Et nous savons tous qu'il a fallu un dernier effort jusqu'au dernier moment pour réussir tout cela aujourd'hui. We are creating the largest free trade zone in the world. Pour créer la plus grande zone de libre-échange au monde. We are creating a market of 700 million people. Nous créons un marché de 700 millions de personnes qui représentent près de 20% du PIB mondial. C'est phénoménal. Long live the friendship. Et vive l'amitié entre l'Union européenne et le Mercosur. Muchas gracias.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, hier au Paraguay. Cet accord historique crée donc l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Et malgré l'opposition des agriculteurs français qui s'est exprimée ces dernières semaines, il fait aussi des heureux cet accord, comme les producteurs de vin et de spiritueux. Gabriel Picard est le président de la Fédération des exportateurs de vin et spiritueux.
Pour notre secteur, à la fois les viticulteurs et les producteurs de spiritueux français, on considère que c'est un bon traité. À la fois sur le plan économique, puis aussi pour le signal qu'il envoie, surtout à l'heure à laquelle on se parle.
Oui, là on est sur des droits de douane qui étaient très élevés en Amérique du Sud, hein, je crois 27% pour le vin, 35% pour les spiritueux, c'est ça ?
Voilà, strictement pour notre secteur, si on parle des tarifs, c'est exactement ce que vous avez dit, 27%, 35%, et un système de désescalade de ces droits pour les conduire à zéro sur une période de 8 années.
Cet accord peut être une bouffée d'oxygène pour votre secteur ?
En tout cas, c'est une façon de rebondir et d'ouvrir de nouveaux marchés, ou en tout cas de continuer à développer de nouveaux marchés à l'heure où des marchés historiques sont plus durs, voire se referment. Donc c'est pas ce qui va changer la face du monde concrètement pour notre secteur aujourd'hui, mais en tout cas c'est un bon signal, c'est une tendance importante sur laquelle on doit rebondir, et puis c'est une façon d'aller vers l'avant.
Gabriel Picard, que représente d'ailleurs aujourd'hui très concrètement le marché sud-américain pour votre secteur, pour les vins et spiritueux ?
Alors pour notre secteur, c'est un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et on imagine que sur les 2-3 années qui viennent, on peut facilement doubler cette activité-là.
Alors on parle d'un marché, hein, Ursula von der Leyen parlait d'un marché de 700 millions d'habitants entre l'Union européenne et ses pays d'Amérique du Sud. Vous avez fait référence hein, dès le début de notre entretien sur les droits de douane, je pense à la Chine et puis je pense bien sûr aux États-Unis avec cette nouvelle menace de 10%, hein, menace de Donald Trump à partir du 1er février. C'est un nouveau coup dur pour votre secteur ?
Effectivement, c'est de toute façon pas une bonne nouvelle. Malheureusement, depuis maintenant un an et demi, on commence à s'habituer aux annonces, aux discussions qui font suite après. Mais ça montre que le commerce multilatéral, comme on le connaissait, avec des règles relativement équilibrées, a tendance à être remise en cause et très largement par nos anciens alliés américains. Donc ça renforce le fait qu'on doit diversifier nos marchés, diversifier nos zones de distribution. Le Mercosur est une option, je pense à l'Inde pour une autre, et il y a d'autres pays dans le monde, et ça pousse et ça milite pour que l'Europe noue des accords commerciaux avec un maximum de pays dans le monde et qu'on ne dépende pas uniquement des États-Unis ou de la Chine.
Mais vous savez bien, parce que effectivement, effectivement, on parle de la viticulture, de la vigne française. On sait bien que le message n'est pas du tout le même du côté des éleveurs français. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous craignez d'ailleurs une fracture entre viticulteurs et exploitants bovins, par exemple, aujourd'hui, avec ce traité du Mercosur?
Alors, bien sûr que c'est un sujet qu'on a à l'esprit et on a toujours dit qu'on était, notre secteur, en faveur de cet accord, mais pas au détriment d'autres. Et je pense effectivement au secteur de l'élevage. J'aurais deux remarques sur ce sujet. D'abord, il y a des points qui ont été largement renégociés, amplifiés, d'ailleurs sous l'impulsion de la France, pour faire que cet accord soit plus contrôlé. C'est les fameuses clauses miroirs ou les clauses de sauvegarde. Donc je pense que de façon très objective, et j'insiste sur ce mot, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées à l'accord initial, y compris pour protéger le secteur de l'élevage. Il y a sans doute encore du chemin à faire. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que peut-être que la communication qui est faite sur le Mercosur, en France particulièrement, c'est pas le Mercosur le sujet, c'est sans doute d'autres sujets, peut-être plus de politique intérieure, et le Mercosur est davantage, à mon sens, un prétexte qu'un vrai enjeu. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de points à régler, ça veut dire que peut-être que la communication faite dépasse le seul sujet du Mercosur. Oh. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on a plus besoin de s'unir au sein de l'Europe pour négocier des accords commerciaux à notre avantage que de se désunir pour rester seul face à des gens qui vont nous marcher dessus, et je pense entre autres aux États-Unis ou à la Chine.
Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, interrogé par Renaud Blanc. À suivre, le choix de France Info au cœur de la guerre mondiale des supercalculateurs dopés à l'intelligence artificielle. La France lance son propre modèle, vous le verrez.
France Info, 6h-7h.
Mais d'abord, à 7h moins le quart, l'essentiel de l'actualité avec vous, Philippine Thibaudot. Les menaces tarifaires de Donald Trump sont qualifiées d'inacceptables.
Emmanuel Macron s'insurge, j'ai promis une réponse unie des Européens. Le président américain a menacé plusieurs pays de droits de douane si le Groenland n'est pas, je cite, intégralement vendu. Des pays qui ont envoyé des troupes sur le territoire en soutien aux Groenlandais face aux velléités de Donald Trump. Une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui à Bruxelles. Les Portugais aux urnes aujourd'hui, premier tour de la présidentielle. L'extrême droite, selon des sondages, peut arriver en deuxième position. En France, les ventes de champagne en baisse, troisième année consécutive, en cause, selon l'interprofession, des crises économiques latentes et des évolutions sociétales. Et puis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir entre le Maroc et le Sénégal, qui s'invite au musée Grévin à Paris. Un maillot marocain de foot sur la statue du roi Mohamed VI, enfilé par une militante féministe hier, avec l'inscription Free Betty Lashgar, une femme emprisonnée au Maroc pour blasphème avec des gros soucis de santé. Le collectif derrière l'action dit regretter que le pays hôte de la CAN soit valorisé alors que, je cite, il viole ouvertement les droits humains.
France Info.
Ils sont devenus indispensables pour réaliser des modèles informatiques du climat, améliorer les essais nucléaires ou encore créer un jumeau numérique du corps humain. Les supercalculateurs, ces ordinateurs géants surpuissants, font leur grand retour sur la scène mondiale, dopés à l'intelligence artificielle. Et c'est ce dont on vous parle aujourd'hui dans le choix de France Info. La Chine et les États-Unis sont lancés dans cette compétition. L'Europe tente de rattraper son retard. Bonjour Grégoire Lecalo.
Bonjour.
Depuis maintenant 2 mois, la France a lancé la construction du modèle le plus puissant du vieux continent. Il est construit dans une usine à Angers.
Et même à la pointe de la tech, il ne faut jamais oublier son tournevis.
Le vissage ici, on a équilibré effectivement de visseuses très particulières, des postes capables effectivement de manipuler les produits sans risque.
Alors vous l'avez compris, quand on assemble un supercalculateur monstre de puissance informatique, on n'utilise pas le tournevis rouillé de la cave. Dans ce hall de 17 000 m², l'usine Eviden d'Angers, une filiale du groupe informatique français Atos, les techniciens en blouse anti-électricité statique assemblent les composants du futur supercalculateur Alice Recoq, du nom d'une pionnière française de l'informatique. Un projet franco-européen à 550 millions d'euros qui sera 50 fois plus puissant que la génération actuelle. Vincent Saracani, responsable de l'usine.
On est dans le monde qui doit nous servir à percer les secrets de la science, quelque part. Donc on donne des puissances de calcul phénoménales avec ces supercalculateurs. On parlait de l'équivalent de 10 millions de PC qui devraient fonctionner simultanément pour faire le même calcul que ce que fait un supercalculateur en une seconde.
Ça représente donc 1 milliard de calculs à la seconde. N'essayez pas de faire pareil, on appelle ça un exaflop et c'est la première fois qu'une machine française arrive à ce niveau.
Et à quoi ressemble un tel monstre, Grégoire ?
Eh bien, ce sera un alignement de 94 armoires informatiques noires, à la base appelées des racks. Franck Thomas, responsable de production chez Eviden.
Là, vous avez derrière vous, effectivement, un rack terminé. Donc nous, on va recevoir un châssis complètement vide, donc fabriqué effectivement en France. et on va l'assembler, on va l'équiper de tout ce qu'on a besoin dans un rack.
Chaque rack est un gros Lego avec un système hydraulique pour le refroidir, un système réseau pour le connecter et des lames de calcul qui sont le cœur de la machine. En fait, ce sont des plaques en alliage sur lesquelles viennent se fixer les barrettes mémoire, puces, processeurs, etc. Au total, ça nous donne une machine de 280 tonnes. Autant dire qu'un cerveau numérique pareil, ça ne se range pas facilement. Il sera hébergé au très grand centre de calcul du commissariat à l'énergie atomique de Bruyères-le-Châtel dans l'Essonne. Et pour l'accueillir, il a fallu faire des travaux à sa mesure. Nicolas Lardjan, responsable du centre du CEA.
On a créé une forêt, une charpente métallique qui soutient la dalle béton et qui nous permet aujourd'hui de tenir 2 tonnes 8 au mètre carré. Donc de très très gros travaux dans les sous-sols avec la réalisation de forages, de micro-pieux, l'assemblage de cette charpente et puis le remontage de toutes les cloisons pour arriver à rentrer les équipements.
Et au CEA, le futur supercalculateur Alice Recoq sera connecté en plus à 2 ordinateurs quantiques.
Mais à quoi sert une telle puissance de calcul ?
Alors l'exemple le plus connu, c'est la construction de modèles climatiques complexes avec notamment les équipes du GIEC. Il y a également le nucléaire, militaire ou civil. Les supercalculateurs ont aussi un rôle important à jouer dans la santé. Ils ont permis par exemple d'accélérer les recherches sur les vaccins contre le Covid ou encore la simulation du cerveau attendu dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et le rêve, c'est de construire un jumeau numérique du corps humain. Les applications ne manquent donc pas. Pour les chercheurs, cette puissance de calcul est inespérée. Philippe Lavocat, PDG de GENSI, une infrastructure publique de recherche chargé de la mise à disposition de grands moyens de calcul.
On évoquait ce matin des calculs qui durent 100 jours. Bon, c'est déjà énorme, vous imaginez, pour un scientifique qui veut faire tourner un modèle, attendre une centaine de jours. Mais c'est mieux que, bien évidemment, quand dans le passé, il aurait attendu 10 ans ou 20 ans. Voilà, et c'était fini, sa carrière se terminait, il faisait deux simulations.
La plupart des recherches sur le supercalculateur Alice Recoq seront gratuites, sélectionnées sur dossier à condition de publier les résultats. De grandes entreprises partenaires comme Safran ou EDF y auront aussi accès.
Et quel est l'intérêt pour la France de posséder un tel équipement ?
Question de souveraineté, explique Emmanuel Leroux, directeur de l'activité chez Eviden.
L'intérêt d'avoir des calculateurs faits en Europe, c'est d'abord de maîtriser la technologie et la souveraineté de ces outils essentiels pour la science. C'est d'avoir des outils qui sont optimisés d'un point de vue énergétique, ce qui a été notre point de recherche depuis des années. Et ça permet aussi de préparer à l'avenir des systèmes de plus en plus performants et d'être sûr que la recherche européenne et les industries européennes auront accès, quels que soient les événements géopolitiques, à des puissances de calcul les plus importantes au monde.
En Europe, seule l'Allemagne dispose déjà d'un supercalculateur de classe comparable construit aussi par le français Eviden. Les États-Unis ont déjà 2 machines et la Chine un nombre indéterminé. La date de lancement du supercalculateur Alice Recoq a été repoussée au second semestre 2027.
Le choix de France Info, signé Grégoire Lecalot. Merci à vous. Tout de suite, c'est Destins qui font l'info. Durant tout le mois de janvier, on vous parle de Vladimir Poutine. Dans ce 3e épisode, Isabelle Labéry et Théo Gomard vous racontent comment le président russe porte sa virilité en étendard.
Leningrad, au sortir de la guerre. Le jeune Vladimir grandit dans un kommunalka, un appartement communautaire où 3 familles se partagent cuisine, toilette et salle de bain. Sa chambre est aussi celle de ses parents, alors il passe son temps dehors.
Nos familles n'appartenaient pas à la classe privilégiée. On passait notre temps dans la cour, parfois jusqu'à la nuit. À l'adolescence, les choses ont changé. Certains sont devenus grands et forts. La personnalité ne suffisait plus. Il me fallait d'autres arguments pour maintenir mon statut au cœur de la meute.
Vladimir a beau être plus petit et plus frêle que les autres, il n'a pas peur des coups de poing. À cette époque, la criminalité explose. Pour se faire respecter des bandes de voyous qui défendent leur quartier couteau à la main, ils se mettent au sambo, un art martial soviétique conçu dans les années 30, mélange de lutte et de judo.
На диване майстер спорта международного класса киевлянин Микола Козицкий и чемпион Москвы Микола Новиков.
Il en fait son manuel de survie personnel et politique. Voici ce qu'il disait de l'intervention russe en Syrie en 2015.
Il y a 50 ans, les rues de Leningrad m'ont appris une règle. Si une bagarre est inévitable, il faut frapper le premier.
Dès qu'il arrive au pouvoir, sa virilité devient un outil de communication. Aux antipodes de son prédécesseur, Boris Yeltsin, âgé, malade et alcoolique, il incarne le mâle alpha, combatif et solide, celui qui prend en main le destin du pays. Dans le grand bouleversement post-soviétique, l'image rassure. Vladimir nage dans les lacs, pêche au lancer. À la surface, il chasse le gibier. Sous l'eau, il harponne le brochet. En 2009, toujours torse nu, il s'exhibe à cheval dans la taïga. Le cliché fait date au point que 13 ans plus tard, en juin 2022, les dirigeants du G7 s'en moquent ouvertement. On enlève la veste, allez on l'enlève, lance Boris Johnson et tout le monde rigole. On doit leur montrer nos pecs, insiste le Premier ministre britannique. Poutine répond quelques jours plus tard.
Je ne sais pas s'ils voulaient se déshabiller jusqu'à la ceinture ou encore en dessous, mais ça aurait été dégoûtant à voir. Pour que tout soit harmonieux, vous devez renoncer à l'abus d'alcool et à d'autres mauvaises habitudes, pratiquer la culture physique et le sport. Mais il faut travailler sur soi-même.
Le chef du Kremlin, lui, est fier d'être ceinture noire 8e dan, l'un des grades les plus élevés du judo. À l'aube de ses 60 ans, il se met au hockey sur glace et pilote tout ce qui peut l'être. Bateau, avion, ULM, quad, véhicule à chenilles, motoneige, sous-marin ou char d'assaut. Mais les mises en scène sont parfois grossières. En 2011, il ramène d'une plongée en mer Noire deux amphores grecques présentées comme des pièces du 6e siècle. Elles sont étrangement propres. Son équipe reconnaîtra qu'elles avaient été déposées juste avant son passage. Poutine, le viriliste, défenseur des valeurs traditionnelles, anti-LGBT. Poutine, le macho, y compris dans ses mots, ici en 99 contre les Tchétchènes.
On poursuivra les terroristes partout. Et si c'est dans les toilettes, on les butera dans les chiottes. La question est close.
Le 8 février 2022, il lance à propos de l'Ukraine « Que ça te plaise ou non, ma chérie, il faudra supporter ». Même avec ses homologues, le ton peut être condescendant. Quatre jours avant l'arrivée de ses chars sur Kiev, voici comment se termine un échange téléphonique tendu avec Emmanuel Macron.
Mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, là, à l'issue de cette discussion, qu'on est d'accord sur le principe ? Je voudrais une réponse claire de ta part là-dessus.
Pour ne rien te cacher, je voulais aller jouer au hockey. Parce que là, je te parle depuis la salle de sport. Mais je te rassure, je vais contacter mes conseillers avant de commencer mes exercices.
Des bas-fonds de Leningrad au sommet du pouvoir, rien n'a changé. Pour Vladimir Poutine, c'est la force qui fait loi.
Un récit signé Isabelle Labéry et Théo Gomard. Ce destin qui font l'info à retrouver en intégralité sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. Le billet science week-end, c'est avec Bill François et Benjamin Fontaine.
Vous connaissez peut-être les coquillages transformés en vaisselle, les algues qui deviennent de la peinture. Aujourd'hui, on vous présente les épluchures de carottes transformées en viande artificielle. Bonjour Bill François.
Bonjour.
C'est une découverte de scientifiques allemands. Comment c'est possible ?
Grâce à des champignons. Et plus précisément, grâce à des pleurotes roses. C'est ce qu'ont publié les chercheurs de l'université Justus Liebig en Allemagne le mois dernier. Dans leur étude, ils ont nourri ces champignons avec des épluchures de carottes. Mais ils n'ont pas fait pousser le chapeau du champignon comme on fait d'habitude pour le manger. Ils ont simplement développé le mycélium, le réseau de filaments souterrains du champignon. Et ce dernier a permis de transformer les épluchures en une substance aussi riche en protéines que la viande. Alors, c'était pas facile. Ils ont dû tester 106 variétés de champignons différents et de très nombreuses conditions de culture pour trouver celle qui optimisait la pousse, mais ça a fonctionné. Et bonne nouvelle, c'est comestible.
Et ça suffit à faire un repas ?
Il faut les combiner avec des céréales si on veut un repas complet. Mais à part ça, c'est un aliment très nutritif.
Donc nutritif, comestible, d'accord, mais est-ce que c'est bon ?
Évidemment, les chercheurs se sont posé la question. Et ils ont donc fait des tests en aveugle avec des goûteurs. Et les goûteurs ont très nettement préféré les steaks et saucisses fabriqués avec ce matériau à ceux fabriqués plus traditionnellement avec du soja, comme on fait d'habitude. L'aliment est littéralement prêt à conquérir nos assiettes, ce qui est une bonne nouvelle pour revaloriser les déchets alimentaires, en particulier les restes de carottes issus de la fabrication de jus, colorants ou plats cuisinés, qui sont encore pleins d'éléments nutritifs mais ne sont pas utilisés. Au total, c'est 31% de nos légumes qui finissent quotidiennement à la poubelle, gaspillés. Et cette nouvelle technologie peut permettre d'en refaire de la nourriture. La science souhaite donc à ces champignons mangeurs de carottes de vite conquérir nos assiettes. C'est bon, c'est économe et en plus, il paraît que ça rend aimable.
Et on prendra le temps de les goûter un peu plus tard. Merci beaucoup Bill. Bill François et ses découvertes à retrouver dans le billet science sur franceinfo.fr.
Merci Benjamin Fontaine.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Patricia Charbonnier, encore beaucoup de pluie autour de la Méditerranée.
Et c'est toujours cet épisode méditerranéen avec des pluies soutenues et parfois même orageuses. Alors ces pluies se concentrent aujourd'hui surtout sur les départements Corse et sur le Languedoc-Roussillon avec de bons cumuls. Ces pluies s'accompagnent de fortes rafales de vent de secteur est jusqu'à 70 km/h en pointe. On a un temps gris et humide sur les régions proches de l'Atlantique, sur le massif central et sud-ouest, mais là les pluies sont plus faibles. Et puis on profite d'une amélioration par le nord et le nord-est du pays, poussée anticyclonique, donc retour d'un temps sec et lumineux cet après-midi, après dissipation quand même de quelques plaques de grisaille. Et les températures sont très contrastées, toujours de la douceur sous la pluie dans le sud, 17 degrés à Ajaccio, 13 à Montélimar et Clermont-Ferrand, 10 degrés à Paris et Brest, et une petite fraîcheur dans le nord et le nord-est, avec 3 degrés cet après-midi à Strasbourg et Colmar.
Merci Patricia Charbonnier, il est bientôt 7h, l'heure de vous retrouver, Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Adrien.
Également avec nous ce matin, Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal, et bonjour aussi Philippine Thibaudeau.
Bonjour Adrien.
Avec cette information majeure ce matin dont on va beaucoup vous parler sur France Info, et cette question, les viols en série subis par Gisèle Pelicot auraient-ils pu être empêchés? Oui, au moins en partie. Une lettre contenant la preuve ADN que le mari de Gisèle Pelicot avait commis un viol en 1999 avait bien été envoyée en 2010, mais elle a été perdu au tribunal de Meaux, un an donc avant le début des viols sur Gisèle Pelicot. C'est ce que dit le rapport de l'inspection générale de la justice, rapport que France Info vous révèle ce matin.